premier paragraphe, les apologistes ou apologètes grecs. Alors, commençons par les Grecs, parce que le grec, c'est la première langue des chrétiens. Hein. C'est la langue du christianisme primitif, qui est ce grec commun à tous, qu'on appelle koiné, hein, le grec commun. Alors, grand A, généralité. Alors, petit A, convaincre les opposants, l'apologétique. Hein, donc, le but de l'apologétique, c'est de convaincre ceux qui critiquent. Alors, bien sûr, l'apologétique, elle est déjà présente dans les écrits canoniques du Nouveau Testament. On pourrait dire que tout le Nouveau Testament est un effort pour convaincre les Juifs de se convertir, puis pour persuader les païens d'en faire autant. Hein ? On peut dire que finalement, tout le Nouveau Testament, tous les écrits du Nouveau Testament sont de l'apologétique. Alors, on propose la vie de Jésus, ses paroles, les miracles, etc. Tout ça pour convaincre les Juifs qu'il est vraiment le Messie, qu'il a accompli vraiment les promesses d'Israël, et puis pour convaincre les païens qu'il est véritablement le Fils de Dieu, le Sauveur du monde. Voilà. Et vous avez cette phrase que connaissent tous les scouts. Soyez toujours prêts. Semper parati, hein, c'est marqué sur le ceinturon. Soyez toujours prêts à rendre compte de l'espérance qui est en vous. Quelle belle phrase dans la première de Saint-Pierre. Soyez toujours prêts à rendre compte de l'espérance qui est en vous. Mais ce n'est qu'au IIe siècle, quand la situation de l'Église s'est modifiée, que l'apologétique est devenue un genre littéraire spécifique. Et en raison des origines et de l'environnement du christianisme primitif, eh bien, l'apologétique va s'adresser à deux catégories d'auditeurs, les juifs et les païens. Alors, vis-à-vis des juifs, eh bien, il s'agit de bien délimiter ce qui différencie le christianisme de ses origines juives. Autrement dit, on ne va pas faire une nouvelle relecture des événements fondateurs du judaïsme, la sortie d'Égypte, etc. Mais un renversement de perspective. Le point de départ, le centre, c'est plus la sortie d'Égypte, et puis après on commente, mais on déclare que le centre, c'est le Christ, et la sortie d'Égypte et tous les événements de l'Ancien Testament ne sont que des préfigurations. C'est l'ombre par rapport à la lumière. Et ça, c'est complètement nouveau. Et vous le voyez, les évangélistes le montrent bien. Songez par exemple à Saint-Marc. Hein. Au début de Saint-Marc, on nous présente Jésus qui prêche, qui parle, et on nous dit qu'il parle avec autorité à la différence des scribes et des pharisiens. Il a un langage nouveau, une parole nouvelle, un contenu nouveau, etc. Donc Saint-Marc insiste sur la nouveauté de l'enseignement du Christ. Et ce qui montre qu'il est le renversement de perspective, c'est qu'il enseigne avec autorité et non pas comme les scribes et les pharisiens qui sont des commentateurs et qui donc commentent un texte qu'ils considèrent comme supérieur à ce qu'ils disent. Donc là, c'est le renversement de perspective. C'est le Christ qui a un commandement nouveau. Vous avez entendu dire sur le sermon sur la montagne, vous avez entendu dire que, et moi je vous dis que, vous voyez, on ne peut pas montrer davantage. Et saint Paul lui-même, quand il commentera dans la première aux Corinthiens et dans d'autres passages, il dira très simplement que il y a une alliance nouvelle qui apparaît avec le Christ. Hein, c'est une nouvelle diathèque, comme il dit, une nouvelle, comment dire, alliance, ce n'est pas le vrai mot d'ailleurs, une nouvelle disposition divine dans l'œuvre du salut. Autrement dit, on n'est plus dans la répétition, dans le commentaire de la disposition qui déclare désormais ancienne, parce que saint Paul dit ça, il dit clairement que c'est devenu vieux, donc c'est venu dépasser l'Ancien Testament, voilà, devenu l'Ancien Testament, et qu'il y a, face à cette disposition qui était celle à laquelle se ralliaient tous les Juifs, y en a une nouvelle qui rend périmé l'autre. Et vous retrouvez la même idée dans l'Épître aux Hébreux, hein, qui n'est pas de saint Paul. Mais donc, l'idée, bien délimiter ce qui différencie le christianisme de ses origines juives. Autrement dit, le Christ, Jésus est le Christ, donc le Messie, et tout l'Ancien Testament, enfin toutes les Écritures juives jusque-là, eh bien, ne sont qu'une préparation à la bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il faut interpréter l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau, c'est-à-dire avec une clé, si on peut dire, christologique. Il faut lire l'Ancien Testament en ayant présent à l'esprit la personne et l'enseignement du Christ. Donc, ça c'est le côté, on pourrait dire, doctrinal, hein, dans l'apologétique vis-à-vis des Juifs. Et puis, il y a une partie, alors on pourrait dire, parénétique, là, d'exhortation à la conversion, c'est-à-dire montrer aux Juifs comment leurs Écritures elles-mêmes parlent de ce Jésus, montrer comment Jésus a accompli le judaïsme et comment c'est finalement logique pour un Juif de devenir chrétien. Il y en a qui trouveront ça logique, effectivement. Alors, en étant un peu secoué, comme Paul, par exemple, et d'autres. Hein. Vous savez, à chaque fois que Paul fait, ou Étienne, ou un autre, fait un grand discours, il y a toujours une petite minorité qui l'accueille, et puis une majorité qui s'en détourne.
Qui lapide.
Oui. Donc une bastonne et tout. Comment ?
On a des chiffres sur les
Par exemple, dans les Actes, on nous dit qu'au discours, il y avait 3 000 juifs qui s'étaient convertis. Alors, le chiffre est peut-être un petit peu... vous savez, tous ces chiffres sont des chiffres à clé, hein, donc des chiffres symboliques. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a quand même une bonne partie... il y a eu du monde qui s'est converti, c'est certain. Les juifs qui se sont convertis en... Puisque dès les années 50, quand Pierre et Paul vont venir à Rome, il y a déjà des communautés chrétiennes qui se sont constituées à partir des communautés juives locales. Et il y en a à Antioche, il y en a partout, donc à Jérusalem, évidemment. Alors ça, c'est l'apologie vis-à-vis des juifs. Il y a aussi une apologie vis-à-vis des païens. Et alors là, qui sont liés aussi à l'hostilité que les païens déploient à l'égard des chrétiens, justement qui perdent la protection juridique du judaïsme. Et ils vont considérer que les persécutions qu'ils subissent sont injustifiées. Et ce qui motivait... les persécutions, c'était, et on le verra avec Trajan, c'est le nom de chrétien, c'est le nomen christianum. Pourquoi ? Parce que on les accusait, sans preuve, la plupart du temps par des ragots, d'impiété, parce qu'ils ne rendaient pas de culte aux divinités officielles. D'inceste, parce qu'on avait repéré que dans leurs écritures, ils disaient qu'il fallait vivre comme frères et sœurs. Bon. De cannibalisme, parce qu'ils mangent le corps de du Christ. Voilà. De meurtre d'enfants, Alors ça, c'est toujours un peu le truc qu'on ressort quand on n'a plus rien à dire, mais ça fait toujours de l'effet, etc.
C'était lié à quelque chose de précis ou c'était...
Non, c'est parce que, en fait, que souvent, ils se réunissaient un peu secrètement, parce que justement, discrètement, en tout cas, dans la nuit. Et donc, vous savez, les gens... Ils extrapolent vite. Hein. Et donc, puis alors, vous savez, toujours la même chose. Hein. Quand vous voulez tuer votre chien, vous dites qu'il a la rage. Donc, quand vous voulez le chant du voisin, vous dites qu'il est ceci, qu'il est cela. Et puis, vous dénoncez à l'autorité. Et puis, vous réussissez. Ça marchait dans tous les régimes totalitaires. C'est comme ça qu'on a... par exemple, vous avez un chant qui appartient à un chrétien, vous dites que le chrétien blasphémait le Coran, puis paf, vous récupérez le chant pour rien du tout. Hein. Alors finalement, les apologètes vont faire remarquer l'illogisme de la position romaine initiale. Si c'est la qualité de chrétien qui est le crime... Pourquoi ne les persécuter que par rescrit, c'est-à-dire par dénonciation, ponctuellement, et non pas par édit universel, hein, puisque on a le texte un dialogue, un échange de lettres entre l'empereur Trajan et Pline, qui était gouverneur de Bithynie, et qui dit « il y a des chrétiens, qu'est-ce que je dois faire ?» Et l'empereur répond « eh ben, s'ils sont dénoncés, il faut les condamner. S'ils ne sont pas dénoncés, il faut les laisser tranquilles. » Alors, évidemment, les premiers apologètes vont dire « mais si c'est un crime d'être chrétien, poursuivez-nous. Mais tous, et pourquoi seulement certains qui sont dénoncés ? Pourquoi il n'y a pas si on est un danger pour l'Empire, à ce moment-là, qu'il y ait une procédure inquisitoriale, et puis qu'on voilà. » Donc, ils dénoncent l'illogisme de la position de Trajan. Mais en fait, Trajan était embarrassé par cette... parce que les empereurs, mais pas qu'il y ait du désordre, ils créent du désordre, donc... Il se rendait bien compte qu'il y avait des mouvements populaires contre les chrétiens. Vous savez, courageux comme sont souvent les hommes publics, ils sont les chefs, donc ils se mettent à la remorque des passions, quoi, des passions populaires. Ça ferait plus de désordre d'empêcher la populace de poursuivre quelques individus innocents que de condamner ces innocents et de les livrer à la populace pour avoir la paix. En fait c'est la position... La position des Antonins. Et en tout cas, ce que disent les apologètes, c'est si, en tout cas, le fait d'être chrétien, c'est lié à des crimes, ces crimes-là, prouvez-le. C'est pas le nom seulement qui doit être une condamnation, ou alors il ne peut être une condamnation que si on a prouvé que ceux qui sont chrétiens sont effectivement des criminels. Vous voyez ? Alors, comme le dit... Le professeur Drobner, qui est un patrologue, il dit « L'argumentation devait donc permettre de lever les incompréhensions et de corriger les représentations erronées, sources de persécution, que le peuple se faisait des chrétiens. Il fallait présenter le christianisme comme une conviction de foi recevable, non seulement conciliable avec le bien et les lois de l'État, et on verra comment dans la Didaké, en disant « nous sommes les meilleurs des citoyens, puisque nous sommes comme l'âme dans le corps, etc. » non seulement conciliable avec le bien et les lois de l'État, mais qui allait même positivement dans ce sens. Les chrétiens, en effet, priaient pour l'empereur, prenaient part à la vie publique, leurs obligations morales chrétiennes leur imposaient le respect scrupuleux du droit, etc. Donc, effectivement, les chrétiens se conduisent comme de bons citoyens. Ils prient pour l'empereur, prennent part à la vie publique, remplissent leurs obligations de citoyens à partir de leur morale plus haute que la morale ordinaire. Mais, continue Drobner, la véritable pierre d'achoppement était et restait la conviction qu'avaient les chrétiens d'honorer le seul vrai Dieu, ce qui leur interdisait de prendre part au culte officiel en l'honneur des dieux. L'apologète chrétien se devait donc, en dernier ressort, d'établir clairement le caractère sensé et la supériorité de sa foi, nécessité qui conduira à l'intérieur de l'Église à jeter le fondement de la théologie. Vous voyez ? Autrement dit, il s'agit non seulement de dissiper les fausses accusations, mais finalement de montrer que le culte officiel est un culte rendu aux démons, finalement, ou du moins à des vanités, et que qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu. Et voilà. Et alors là, évidemment, il s'expose à la réaction, et une réaction qui sera longue, hein, puisque vous verrez que on verra qu'à la chute de Rome, trois siècles plus tard, eh bien, il y aura tout un parti sénatorial qui dira « Mais Rome est tombée parce qu'on a abandonné le culte officiel de multiséculaire, enfin, vieux d'un millénaire quasiment, et c'est la cause de la chute de Rome. » Bon, c'est la raison pour laquelle Saint Augustin écrira son De Civitate Dei pour répondre à cette accusation. Mais
quand disparaît complètement le paganisme organisé?
Alors on peut dire organisé, déjà avec Théodose, les cultes païens sont interdits. Alors ils sont interdits. Voilà, ils sont interdits. On ferme les temples. On délaisse la parce que Constantin sera encore Pontifex Maximus, mais on va délaisser les collèges sacerdotaux qui vont devenir presque privés d'une certaine manière. Enfin, on va décourager le culte païen, et puis à un moment on le persécutera même. Et puis disons la fermeture de l'école d'Athènes. Voilà, sous Justinien, au VIe siècle, va être un petit peu la date de la fin d'une culture complètement païenne, disons, authentiquement païenne. Alors, après, le paganisme survivra dans les campagnes, hein, bien sûr. La preuve, c'est qu'à l'époque où on ferme l'école d'Athènes, Saint-Benoît ira renverser des hôtels païens au Monte Cassino, donc signe encore que un peu partout, Saint-Martin fera la même chose en France, etc. Donc ça veut dire que partout encore le paganisme reste un petit peu présent, mais il a plus l'appui des autorités, et il est déconsidéré dans ses pompes officielles, hein, si vous voulez. Puis à chaque fois que donc de manière le paganisme restera aux franges de l'Empire, à chaque fois que les chrétiens iront au-delà des franges de l'Empire, ils rencontreront des païens. Puis en fait, comme c'est plutôt les païens qui vont venir dans l'Empire, en fait il y aura toujours des païens, puisqu'il y a toujours des peuples germaniques qui vont rentrer dans les frontières de l'Empire, et donc continuellement les chrétiens seront remis au contact de païens.
Les fonctions sacerdotales dans le cursus, elles ont été supprimées quand?
Je pense que ça doit être sous Théodose, hein, il me semble. J'ai plus de souvenirs précis, mais je pense que c'est sous Théodose où l'empereur cesse d'être le pontife suprême. Et puis, alors, certainement, du jour au lendemain, les collèges n'ont pas été supprimés. Les Vestales, je ne sais pas combien de temps elles ont...
Les Vestales ont survécu.
Oui, elles ont survécu. Mais un certain nombre de collèges comme ça vont être...
C'est vrai, l'Hôtel de la Victoire, là, ça vient tard, ça, quand
même. Oui, c'est ça. C'est dans la... Oui, parce que, justement, l'Hôtel de la Victoire avait été retiré du Sénat. Et donc le parti du sénateur Simmac voulait le rétablir du fait que Rome avait été pillée en 410. 407. En fait, il y a eu deux reprises très proches, oui. Jean Séric et puis Alaric, je crois. Donc.
Mais ça n'aurait plus rien, cet hôtel.
Non, il servait plus à rien. Et de fait, il n'y avait plus de sacrifice qui était offert sur cet autel.
Mais pourquoi il n'avait pas été
Auguste ?
Comment ?
L'autel de la victoire.
L'autel de la victoire ?
Non,
c'est la Rapacis. Non, l'autel de la victoire était dans la salle du Sénat.
Pourquoi ils n'ont pas fait une petite chapelle à la place ?
Ben en fait, une chapelle, il y en a une très vieille là, qu'on trouve dans le forum. Mmh. Mais si, il y a eu des églises qui ont été. Les premières églises, la celle qu'on a fêtée aujourd'hui, hein, le Latran, qui sort de terre au IVe siècle. En fait, il faudra attendre la paix constantinienne, parce qu'autant les communautés peuvent survivre discrètement, mais les édifices, eux, ils sont plus visibles. Hein, donc, il ne peut pas y avoir d'édifice avant que la persécution officielle soit achevée. Et, d'ailleurs, je crois que l'autel au moins dans la tradition occidentale, l'autel du Latran, le premier autel en pierre. Parce qu'avant, c'était des autels en bois portatifs qui étaient installés dans les lieux où on célébrait l'Eucharistie, les maisons privées et tout ça. Donc, voilà.